Le général, comme prévenu, donna d'un ton enjoué le signal de la retraite. Les bagages d'Augustin ont été montés dans sa chambre. Tel un djinn, le général s'évanouit après avoir répété quelques paroles de bienvenue. « A-t-elle connu beaucoup d'hommes ?» se demande Augustin. « Son esprit n'a jamais couru si vite. Que veut-il prolonger au juste ?» À présent, elle se retire, elle aussi un bougeoir à la main. Il voit disparaître dans l'escalier la robe noire et la lourde chevelure aux reflets roux, avec un léger regret. Peut-être a-t-il espéré qu'elle se retourne. Neuf Romains le lendemain, il fut réveillé tôt par le grondement du canon qu'on tirait en limite du polygone de Bourges. Un instant, comme chaque matin, et peu importait ce qu'il avait fait la veille, les émotions, de quelque nature qu'elles fussent, ressenties avant qu'il plongeât dans le sommeil étant sans influence, il fut envahi par la tristesse et le dégoût. Un instant, gestes, paroles, paysages même, tout lui parut inutile et il fut tenté, comme chaque matin, de ramener sur sa tête le lourd édredon de plumes et de fuir définitivement dans le royaume des songes. Puis il rejeta l'édredon et jaillit hors du lit en se frottant les yeux, à demi ébloui par la lumière crue et sale qui tachait le parquet. Tout en s'aspergeant d'eau froide, il vit du passage dans la petite cour fermée, qui n'était certes plus la même que la nuit précédente. Elle avait pavés sonores et murs précis, repris sa place de tous les jours. Augustin se souvint avec plaisir de leur dîner et descendit aussitôt. Que la brume couvrit, par endroits le pied des arbres aperçus dans le lointain, alors que le soleil éclairait leur fête, lui parut un heureux présage. Il ne s'expliquait pas comment les choses les plus banales lui faisaient ainsi battre le cœur, comment d'aussi simples spectacles pouvaient l'enchanter à ce point, mais il y avait longtemps qu'il ne se boudait plus. Le général buvait son café debout au milieu des livres, à la manière des moines. Il était seul. Si Pierre fut déçu de ne pas retrouver Marie-Antoinette, il n'en laissa rien paraître. Le vieux soldat était souriant et réservé, comme s'il avait lui aussi endossé ses habits du jour après ceux de la nuit. Ils burent en silence, Augustin feuilletant distraitement sur une planchette tirée un livre d'anatomie aux notations inexactes et qui semblait avoir été disposé là tout exprès pour lui. L'idée le traversa que peut-être il ne la reverrait pas avant de partir, et il eut un peu de peine, mais moins toutefois, se dit-il, que s'il l'avait revue aussi distante que les autres éléments, matériels ou humains, du tableau enchanteur de la veille. Amical et froid, il se fit conduire, sans trop de paroles, jusqu'à sa voiture. Le général, et lui, enveloppés de manteaux de cavalerie, s'assirent à l'arrière, et cet équipage dégrisé prit la route de Bussy. Au moment où ils abordaient Dun-sur-Oron par l'abattoir municipal, Marie-Antoinette, de son côté, pénétrait dans l'église. Sous le portique roman, deux ou trois vieilles parlaient sans animation. Elle les rejoignit, et se tint là quelques minutes à échanger des propos indifférents. Elle souffrait de cet énervement indistinct qu'elle ne pouvait contenir, et se reprochait aussi d'être venue à l'église, donnant au trouble qu'elle ressentait ce matin une importance qu'il n'aurait jamais pris par lui-même. Mais Dieu n'est-il pas là dans toutes les circonstances? Il ironisa en silence la belle silhouette de velours prune au milieu des silhouettes courbées en drap gris. Et secouant légèrement ses cheveux sur une dernière remarque sans objet, elle entra et se dirigea vers le chœur, mais timidement en évitant l'allée centrale. Madame Grigoriev, elle est née dans une constellation pas commune. Elle est bonne, mais elle porte le sentiment sur son visage. N'empêche, le général est bien heureux, si belle et lui si vieux, et qu'il n'y a rien à dire. D'abord, les gens autour y pensent que chasse et goulufrerie. Alors l'homme est bien tranquille. L'abattoir de Dun avait été construit 10 ans auparavant, sur une friche située à quelque distance des remparts. On aurait dit un petit château utilitaire, industriel. Les formes, l'éthique de construction étaient semblables à ceux des demeures qu'on habite. Au centre, un bâtiment principal à fronton triangulaire et sur les côtés, en demi-cercle, sorte de commun, deux bâtiments plus petits, où les bêtes vivantes étaient débarquées d'un côté, et les bêtes mortes préparées de l'autre. Ils s'arrêtèrent un peu. Un ouvrier lavait à grande eau le pavé de la cour et le pied des murs de briques où le sang avait gelé. Du bord de la route, deux créatures étranges jouissaient aussi du spectacle. Vêtues de treillis blancs, les gestes peu sûrs, elles présentaient des visages mobiles où nul sentiment, nulle pensée ne paraissait pouvoir se refléter de manière durable. Augustin apprit de Grigoriev que les fous qui peuplaient l'asile départemental se promenaient en liberté 2 heures par jour. La population s'était habituée à ces pauvres gens inoffensifs et à leurs rêves détruits. L'un des fous retira sa calotte de laine et l'agita devant lui, comme un mouchoir en signe d'adieu. « C'est vrai qu'on dirait une gare », pensa Augustin. L'image de son maître hagard agrippé à son pupitre de bois blanc, balbutiant des mots sans suite au milieu du tumulte, lui revint en mémoire. Et lui, Klein ne le laissera pas sortir. Il ressentit une nouvelle fois ce sentiment qu'il ne pouvait s'expliquer à lui-même, où il entrait de l'affectation, de la pitié, mais aussi, et même surtout, une forme inhabituelle d'admiration, parce que Joaquin Alcossé avait poussé sa vie désordonnée jusqu'au point où les contraires s'annulent. Chaos et claquement, la voiture repartit. Marie-Antoinette sortit de l'église moins mécontente d'elle-même et l'esprit tout occupé du dîner qu'elle donnait ce soir-là. Elle chercha du regard les trois vieilles et les vit s'éloigner vers la route de Saint-Ramand. « N'y pensons plus », se dit-elle, avec une gaieté à la fois plus légère et plus vive que d'habitude.